Chapitre 12e. Henri eut bientôt exploré tous les milieux artistiques. Claude lui facilita l'accès des ateliers et le présenta à ses amis. Le désir de connaître, jusque dans ses moindres détails, ce monde qui lui révélait chaque jour quelque chose d'inattendu, triomphait de sa timidité. Il feuilletait fiévreusement ce grand livre de la vie parisienne. Toutes les scènes qui passaient devant ses yeux s'y gravaient profondément. Bien des choses heurtaient ses idées, choquaient ses regards et répugnaient à ses croyances. Aussi ne se sentait-il nullement pris par le désir de vivre de la vie mondaine. Il voulait simplement voir le monde au moins une fois sous tous ses aspects, connaître toutes ses théories et les juger sans jamais les mettre en pratique. Il avait cette curiosité des coquettes qui voudraient tout connaître et tout voir sans n'y rien laisser d'elles-mêmes. D'ailleurs, il se contentait de considérer le côté extérieur. Au théâtre, il aimait les pièces à costume, comme Ruy Blas ou Lucrèce, et sans entre les tirades des acteurs, il fixait dans ses yeux les attitudes des bons hommes, l'expression de leur visage, le chatoiement des étoffes, l'arrangement des groupes et le jeu des ombres. Il se rendait au bois, à l'heure de la descente du lac, pour voir les toilettes des femmes et les croupes des chevaux s'éclairer sous les lueurs du soleil déclinant. Dans les musées, il étudiait de préférence les paysages et les scènes du Levant. Au Louvre, il restait de longues heures dans les salles froides des musées égyptiens et assyriens. Claude l'avait engagé à se mêler aux peintres de la jeune école. « On peut, lui disait-il, ne pas aimer la modernité, mais il faut être en bon terme avec les modernes. » Aussi lui arrivait-il parfois, en sortant de l'atelier de Claude, de passer plusieurs heures auprès des jeunes peintres réalistes qui peuplent les hauteurs de Clichy. Ils se réunissaient alors dans des cabarets ayant l'aspect des vieilles beuveries d'autrefois. À la porte, une potence de fer soutenait une enseigne grinçante où on lisait en caractère de vieux missel « à la lamproie ou à la pomme d'Ève ». La devanture était de chêne sculpté, éclairée par un vitrail représentant Rabelais et quelques truands dodelinant de la tête. À l'intérieur, meublé à la flamande, des pochades et des études, aux couleurs invraisemblables, garnissaient les murs jusqu'aux solives historiées du plafond. C'est là que fleurissaient l'impressionnisme, le luminisme et autres théories picturales aux noms barbares. Le plein air surtout était fort en honneur, le plein air, l'étonnement des Philistins. Henri écoutait toutes les fantaisies et les paradoxes spirituellement débités par les modernes et en faisait le sujet de longs entretiens avec Claude. « Vois-tu, Henri, disait le maître, tout cela, ce sont des mots. Il ne faut pas profiter de ce que le public ignore certaines expressions et certains procédés de peinture pour lui dire, chaque fois qu'il s'étonne devant une croûte, « Ceci est du plein air. Il ne faut tenir compte que de l'effet produit. On ne doit point avoir besoin, pour admirer une toile, qu'on vous l'explique comme un ouvrage de patience. » Je vois une statue qui me paraît en marbre, elle est mauvaise, je le dis. Si un monsieur survient pour me répondre, vous vous trompez, c'est un chef-d'œuvre, parce que ça a été fait avec de la moelle de sureau par un forçat qui a travaillé pendant 20 ans. Je ne me sentirais nullement convaincu. D'ailleurs, Claude ne craignait pas qu'Henri vînt à être converti par les modernes. Le jeune homme était uniquement préoccupé de choses orientales. Il loua un atelier auprès de celui du maître peintre et s'appliqua à l'installer selon ses goûts. Pour cela, il errait chez les marchands levantins. Il allait notamment dans le magasin d'un vieux maronite bien connu des artistes. Hakem, c'était le nom du vieux marchand, apportait chaque année de son pays, la Syrie, un chargement d'armes, de tapis, de costumes et de joyaux. Henri se plaisait à fréquenter sa maison. Il y passait de longues heures à admirer tous ses trésors. Il y avait là des tapis de Smyrne, de Téhéran, de Diyarbakir et de Bagdad. De longs fusils ornés de filigranes d'argent, des selles arabes, des lames de Damas portant dans leur niellure des versets du Coran, des cnémides, des boucliers persans, des voiles de femmes, des kéfiers de soie jaune rayés de couleurs vives, des babouches et des mules de Marocains brodées de perles, de burnous et des colliers d'ambre, des gargoulettes et des amulettes. Des coffrets en bois de cèdre aux ferrures ouvragées supportaient des vases à long col et des plateaux en cuivre repoussé. On y voyait aussi des paons, des ibis et de petits dromadaires en métal découpés à jour, gravés et semés de turquoise. Des tables en bois de santal incrustées d'ivoire. Des poignées de sabre en jade enrichies de pierres précieuses. Des colliers de sequins. De lourds bracelets d'or. Des instruments de musique. Guzla, tarbouka, tambourin. des lanternes en métal fenestré et niellées comme de petites mosquées, etc. Le fouillis des couleurs et l'étincellement des métaux plaisaient au regard d'Henri. Il examinait et se faisait expliquer l'usage de toutes ces choses et prenait plaisir à entendre Hakem lui raconter ses voyages depuis Tunis jusqu'à la Mecque. Peu à peu, il entra dans l'intimité du marchand qui lui fit visiter non seulement son magasin, mais encore l'intérieur de sa maison aménagée à la mode syrienne. Hakem avait une fille. « C'est mon trésor le plus précieux, » dit-il à Henri, la première fois que celui-ci l'aperçut. On la nommait Souleyma. Elle avait 17 ans, le teint chaud, les yeux longuement fendus et les cheveux noirs et crêpelés. Son père raconte à Henri comment la mère était morte des fièvres alors qu'ils habitaient le Liban. Ainsi que la plupart de ses compatriotes, il appartenait à l'Église grecque. C'est pourquoi sa fille n'était point voilée, ni assujettie aux pratiques ordinaires des musulmanes. Henri fut séduit par le beau visage de la jeune fille. Presque chaque jour, en se rendant à son atelier, il entrait un instant chez Hakem pour lui demander s'il n'avait pas quelque nouveauté. Souvent, un client survenait, et le marchand laissait Henri avec Souleyma, qui, aidée d'une vieille servante, brodait des petites babouches ou soutachait d'or une selle arabe tendue de velours. Il s'intéressait à l'ouvrage de la jeune fille, et tandis que celle-ci, assise sur des coussins, débrouillait ses écheveaux, il regardait ses bras blancs cerclés d'anneaux sortir de ses larges manches ouvertes, la ligne souple de sa taille enroulée d'une ceinture de soie orange rayée de couleurs, et sa coiffure de gaze légère retenue autour du front par une tresse ornée de sequins. De larges anneaux tremblaient à ses oreilles finement arrondies sous des bandeaux bruns. Ses yeux sertis de noir étaient tour à tour doux ou farouches, mouillés ou ardents. Elle causait en langue syriaque avec la servante, mais elle parlait suffisamment bien le français pour s'entretenir avec Henri et lui parler des temples de son pays avec leurs figures de saints peints sur des fonds d'or, des papas de l'église grecque avec leurs grandes barbes blanches et leurs dalmatiques, des caravanes et enfin des danses, des cérémonies et des usages du Liban. Peu à peu, la petite Syrienne s'emparait de l'imagination de Henri. De son côté, elle restait frappée par la douce figure du jeune homme. Il différait absolument de ses compatriotes, et à Paris, il était peut-être le premier artiste que son père eût fait entrer dans son intérieur. Elle ne sortait pas. Rien n'avait encore retenu son regard, ni pris place dans sa petite tête, quand l'image d'Henri s'y fixa tout à coup. Les jours où le jeune homme n'entrait pas chez son père, Souleyma se sentait malheureuse. Elle querellait sa vieille servante, embrouillait ses broderies, lacérait le tapis de ses ciseaux ou tombait dans une vague somnolence. D'ailleurs, Henri s'abstenait bien rarement d'entrer chez Hakem. Il s'ennuyait plus que de coutume les jours où il n'avait pas vu Souleyma. Ce n'était pas qu'il crût l'aimer, oh non, son cœur était à jamais gardé par le souvenir de Marthe qui lui servait d'égide. La petite Syrienne était pour lui comme un bel objet d'art qu'on a admiré et que, faute de pouvoir posséder dans sa galerie, on va revoir à tout moment. Le décor qu'il avait imaginé se trouvait subitement animé par la présence de cette figure de femme. Elle faisait maintenant partie de sa vision, figurait à son plan et devenait indispensable à l'harmonie du tableau. Il en parla à Claude Janet. « Hé hé !» dit celui-ci. « Est-ce que le petit Henri abandonnerait sa chimère pour quelque chose de plus substantiel ?»« Oh, maître, vous savez bien. Oui, mon ami. » « Je sais que vous avez au cœur un souvenir qui vous gardera à jamais de tout amour sérieux. Mais enfin, vous pourriez être tenté de sacrifier un peu à la jeunesse. Je ne vous en blâmerai pas, car il faut commettre au moins une folie dans sa vie. Et puis, ne m'avez-vous pas dit que vous vouliez tout connaître ?»« Non, maître, je crois avoir dépassé maintenant l'âge où la lutte de l'âme et du corps est le plus difficile à soutenir. Ce n'est donc pas à présent que je succomberai. Souleyma me plaît comme la marguerite de marbre ou la solomée de bronze qui orne votre atelier. Ne vous plairait-elle pas plutôt à cause de sa race, ou de sa vie retirée et tout intime, qui forme contraste avec l'existence ordinaire des femmes de notre pays? Vous vous trompez, je vous assure, mon cher maître. Cette jeune fille me plaît uniquement parce qu'elle incarne à mes yeux cette terre d'Orient que j'aime, que je devine et que je désire. Je vous crois, mon ami. Vous êtes toujours de bonne foi. Il est certain que vous désirez l'Orient. Vous partirez un matin, bien résolu à gagner la Mecque, mais vous ne dépasserez pas la maison de Souleyma.